pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. La remarquable collection Jazz et Blues des éditions Atlas consacre un chapitre paroles et musique à Django Reinhardt. Il a découvert le jazz par hasard, connu la gloire et possédé un club à Pigalle. Raté sa percée aux États-Unis et consacré sa retraite à la pêche et à la peinture. C'est avec l'orchestre du tromboniste Dickie Wells, où jouent notamment les trompettistes Bill Coleman et Chad Collins, que Django a enregistré cette composition, Between the Devil and the Deep Blue Sea. Arrangé par Roy Eldridge, ce morceau permet au guitariste de montrer tout son attachement au swing grâce à un soutien rythmique implacable, puis à un merveilleux mais bref chorus. Une scène du jazz authentiquement française aurait-elle vu le jour si les musiciens américains n'avaient eu la bonne idée de traverser l'Atlantique au début du siècle? On ne peut certes pas l'affirmer, mais il reste que la France a été l'un des tout premiers pays d'Europe à s'intéresser à ces rythmes nouveaux, symboles d'une liberté nouvelle après les affres de la Grande Guerre. Ainsi, dès les années 20, le public vient nombreux assister aux spectacles de jazz, auxquels participent entre autres Josephine Baker et Sidney Bechet. Le tout Paris gagne ensuite le bœuf sur le toit, non loin des Champs-Élysées. Parmi les habitués se trouvent des hommes de lettres, comme Jean Cocteau et Blaise Cendrars, des peintres comme Picasso et Marcel Duchamp, et des compositeurs de grande renommée, qui, tels Debussy, Satie ou Fauré, font l'éloge des musiciens de jazz américains, bien sûr, mais aussi français. Django Reinhardt a parmi d'autres joué à plusieurs reprises dans le célèbre cabaret parisien. Dès lors, les premiers critiques ne tardent pas à faire leur apparition. Fondée en 1930 par Didier Maupré, la revue Jazz Tango Dancing réunit musiciens et spécialistes qui, à l'image d'Hugues Panassier, de Philippe Brun ou d'Alix Combel, transmettent leur amour du jazz à leurs lecteurs. Puis, c'est la création. En 1935, de Jazz Hot, la publication du Hot Club de France. Malgré le divorce de Panassier et de Delaunay, le journal comptera de grandes signatures, dont celles de Boris Vian, d'André Oder, de Lucien Malson ou encore de Franck Thénault. D'un point de vue strictement musical, la grande aventure du jazz hexagonal débute véritablement avec la formation du quintet du Hot Club de France en 1934. Pour Hot, Lips, c'est sur une trame rythmique d'une solidité à toute épreuve que Django et Stéphane Grappelli font croître la tension au cours de cette magistrale interprétation. On ne peut qu'être stupéfait devant la fougue de cette musique qui n'est pourtant produite que par des instruments à cordes. L'égide de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, il montrera même au-delà des frontières que l'on peut jouer du jazz avec des instruments à cordes. Bien des années plus tard, la leçon sera retenue par des violonistes comme Jean-Luc Ponty et Didier Lockwood. Au Festival de Nice de 1980 où nous étions, Didier Lockwood, Christian Escoudé, le neveu de Django, et Marc Fossé rendait hommage au guitariste virtuose. Quel souvenir cette soirée, c'était quelque chose d'inoubliable. Il y avait aussi des guitaristes comme Boulou Ferré, Christian Escoudé et Raphaël Fay. C'est un vivier de jeunes talents. La tradition Nouvelle-Orléans ou Dixieland connaîtra elle aussi un large succès grâce au saxophoniste Hubert Fold et au clarinettiste Claude Luther, Claude Abbadie et André Revelliotti. Quant au Big Band, si les collégianes de Ray Ventura sont rentrées dans la légende, il faut également mentionner ceux d'Alix Combel, de Tony Proto, de Christian Chevalier ou bien encore les fructueuses expériences de Martial Solal. En réalité, depuis les années 30, la France n'a cessé de révéler de talentueux compositeurs et instrumentistes. Les pianistes Raymond Folle, Bernard Peffer, Henri Renaud ou Maurice Vander en font partie, de même que les multi-instrumentistes Michel Portal, François Janot ou Bernard Lubat, le saxophoniste Barney Willen ou l'organiste Eddie Lewis. Sans oublier le groupe vocal des Double Six, fondé à la fin des années 50 par la chanteuse Mimi Perrin. C'est en France, enfin, que se sont déroulés les festivals européens les plus prestigieux. En cela, Paris, avec la salle Pleyel, et plus encore la Côte d'Azur, ont joué un rôle déterminant. Après Nice, dont le premier festival en 1948 a réuni entre autres Louis Armstrong, Django Reinhardt, Stéphane Grappelli et Claude Luther, Cannes en 1959, puis Jean Lépin à partir de 1960, ont organisé avec le succès que l'on connaît leurs propres manifestations artistiques. Le jazz a ainsi en France moins pâti de la concurrence des autres courants de la musique populaire qui naîtront entre-temps. Avec « I can't believe that you're in love with me », le talent de Django et d'Eddie South était tel qu'il leur suffisait d'improviser ensemble pour donner naissance à un mariage heureux et naturel. Tout d'abord sentimental, le jeu du guitariste se durcit lorsque le rythme s'accélère quelque peu.
Thank you.
Django Reinhardt, c'est le feu de la guitare, à l'image de Louis Armstrong pour la trompette ou de Coleman Hawkins pour le sax ténor. Django Reinhardt a été le premier véritable soliste de la guitare jazz. Mais il y a, par rapport à Satchmo et à Bean, une différence de taille. Django était européen et surtout d'origine gitane. Il y avait donc chez lui un plus grand intérêt que chez ses confrères américains pour la musique classique, comme tente à le prouver sa magistrale interprétation du premier mouvement du concerto en ré mineur de Bach. De par sa culture, il avait également une soif insatiable de liberté qui s'est traduite non seulement dans de folles improvisations, mais encore dans des rythmes puissants, dignes des meilleurs spécialistes du flamenco espagnol. On a pu écrire que Django n'avait pas été à proprement parler un musicien de jazz, mais un artiste singulier, resté à la périphérie de cette musique venue d'outre-Atlantique. Or, c'est à lui et à nul autre que les guitaristes doivent d'avoir acquis de nouveaux espaces. Michel-Claude Jalard écrit qu'avant lui, la présence de la guitare solo en jazz se limitait essentiellement à de brefs chorus de banjo ou aux jeux encore un peu frustres de musiciens comme Eddie Lang. Django, au contraire, conféra d'entrée à la guitare sèche un langage soliste très complet, fondé d'une part sur la virtuosité traditionnelle et l'expression sonore des musiciens de son milieu, d'autre part sur la transposition des lignes constitutives du jeu de Louis Armstrong, puis de saxo middle jazz tels Coleman Hawkins et Benny Carter, à quoi allaient s'ajouter après la libération quelques emprunts au phrasé parkérien, facilité par la souplesse plus grande de la guitare électrique. Joie et enthousiasme sont les deux mots qui s'imposent lorsqu'on écoute Runnin' Wild. Stéphane Grappelli expose le thème sur un tempo rapide. Comme à son habitude, Django est stupéfiant, surtout lorsqu'il joue des accords qu'il fait sonner durant les chorus, annonçant, hélas, la fin du morceau. musicien autodidacte, réfractaire à toute théorie. Django a toujours vécu littéralement le jazz, établissant des relations que l'on peut qualifier d'intimes avec la guitare. Son accident à la main gauche l'a contraint à développer un jeu foncièrement original. Mais trois doigts seulement lui ont permis de faire des prouesses au service d'un swing qu'il vénérait et qui chez lui était naturel. Parlant de Nuages, une de ses plus belles pièces, Marc-Édouard Neb écrit « Il pince les nerfs à vif, il caresse des graves qui ne rigolent pas, il monte à des échelles sans fin. Des arpèges supersoniques s'élancent en anacrouse pour le seul plaisir d'aller embrasser des appoggiatures. Il plaque des accords comme des rugbymen. Le moignon diabolique fait ce qu'il veut. » Mais au-delà de cette virtuosité innée, qui a ravi les plus grands créateurs américains, à commencer par Duke Ellington lui-même, Django Reinhardt a prouvé, au sein du mythique quintet du Hot Club de France, que l'Europe, et la France en particulier, était bel et bien terre de jazz et que les cordes pouvaient swinguer avec la même énergie que les cuivres et les hanches. Ajoutons enfin que son ignorance de l'écriture ne l'a pas empêché de créer plusieurs chefs-d'œuvre, parmi lesquels Daphné, Djangology, Nuages et Swing 42. Dans You Took Advantage of Me, Stéphane Grappelli assure le premier chorus de violon, Michel Varlop le deuxième. Tout en nuance et raffinement, Django se libère pour un troisième solo exceptionnel. À propos de Django Reinhardt, Michel-Claude Jalard a écrit qu'il avait été sans doute le premier guitariste de jazz sur le plan chronologique et sur le plan esthétique. Pour ce qui est de la guitare solo, cela ne souffre en effet aucune contestation. Mais pour ce qui est de l'histoire de l'instrument dans le jazz proprement dit, celle-ci débute bien avant les premiers enregistrements du quintet du Hot Club de France. Si l'on fait exception des musiciens de blues du Delta ou du Texas comme Charlie Patton, Robert Johnson ou Lead Bailey, c'est vers la Nouvelle-Orléans qu'il faut tout d'abord porter le regard. Johnny Saint-Cyr et Lonnie Johnson, qui en sont originaires, ont en quelque sorte été les premiers détonateurs. Le premier en participant au milieu des années 20 aux célèbres sessions des Hot Five, dirigées par Louis Armstrong, le second en développant un jeu à la fois rythmique et mélodique très en avance sur son temps. Ces deux guitaristes ont exercé une influence considérable sur Eddie Lang et Eddie Condon, qui appartiennent à l'école des Chicagoans, et sur Teddy Bunn, fin spécialiste du jazz blues. Il faut toutefois attendre la fin des années 30 et l'arrivée triomphale de Charlie Christian dans la formation de Benny Goodman pour que la guitare franchisse une nouvelle étape. C'est avec lui, en effet, que l'électrification acquiert ses titres de noblesse. Aux côtés de Reinhardt et de Grappelli, on retrouve pour Rose Room les guitares de Pierre Ferré et de Marcel Bianchi et la basse de Louis Vola pour l'enregistrement de cette œuvre imprégnée d'un swing irrésistible qui restera, tenez-vous bien, dans l'histoire du jazz comme l'une des plus grandes réussites du quintet du Hot Club de France. Maroche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Pierre Écart dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.